des livres plein les oreilles. Bonjour mes amis, Clotilde Seille au micro de Canal M pour vous présenter une nouvelle fois l'émission Des livres plein les oreilles. Le salon du livre est derrière nous au moment où vous écoutez cette émission-là. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 29 novembre 2018 et je voudrais vous dire qu'aujourd'hui à l'émission, on va nager en plein mystère avec notamment Alain Lafont et la trilogie Dreamwalkers et puis c'est une trilogie lue pour le SQLA et en version commerciale par Aurélie Aubry, qui est aussi de l'aventure à des livres plein les oreilles aujourd'hui. Il y aura deux extraits à venir. Non, vous ne rêvez pas, on va faire dans le fantastique avec Alain Lafont et dans le polar avec Fred Varga, dont vous entendrez un extrait de « Quand sort la recluse ». Pourquoi ? Parce que c'est le prix Audiolib 2018. Aussi avec nous aujourd'hui, Yannick Olassa, qui salue la mémoire du graffeur Banksy avec le livre la patience du franc-tireur. On en aura aussi un extrait. Et enfin, Hélène Gauthier partage avec nous une littérature hivernale dont quelques livres qui se lisent, ma foi, très bien pendant les fêtes et qui s'offrent très bien aussi. Là encore, le polar et le mystère seront au rendez-vous. Alors, tout de suite, avant de rencontrer Alain Lafont, auteur de cette trilogie, laissez-moi le plaisir de vous plonger dans l'ambiance.
Il faisait nuit. Le ciel noir, sans lune, sans étoiles, recouvrait tout. Dans la ruelle, la fillette courait depuis une éternité, sans réussir à trouver de cachette. C'était étrange d'ailleurs, tous ces cul-de-sac, ces portes en acier verrouillées et ces fenêtres condamnées. Les quelques lumières qui lui permettaient de se diriger, sans heurter les murs, provenaient de lampadaires désuets, dont les ampoules jaunâtres jetait une lueur glauque, rendant la scène encore plus sinistre. Elle voulait crier, mais aucun son ne sortait. Quelle que soit la direction choisie, elle finissait toujours par revenir au même endroit. Un croisement de trois passages, encombré de poubelles renversées et d'immenses bacs à déchets qui débordaient. Elle reconnaissait cette place à cause d'un graffiti sur le mur, en forme de serpent, avec écrit en dessous un vilain mot qu'elle n'avait pas le droit de prononcer. Le seul bruit audible était celui de la chose qui riait dans son dos, tantôt fort, tantôt plus faiblement. Elle croyait parfois avoir réussi à la distancer, mais dès qu'elle tournait le coin de ruelle suivant, elle se retrouvait une nouvelle fois au carrefour qu'elle venait juste de quitter. Alors que le rire reprenait de plus belle, elle comprenait que le jeu n'était pas terminé, que cette chose s'amusait simplement avec elle, et elle se remettait alors à courir, courir. Sans réfléchir, sans se poser de questions, parce que si la chose l'attrapait, elle lui ferait du mal. Elle n'avait aucune idée du temps qui s'égrenait. Parfois, elle glissait dans une flaque de liquide noir, ou encore trébuchait sur divers objets qui semblaient ne pas être là un instant auparavant, mais elle finissait toujours par se relever pour repartir en courant. L'autre était tout près. Elle le sentait.
Ça, c'était pour nous mettre dans l'ambiance. Malheureusement, je ne peux pas vous dire, Alain Lafont, Aurélie Aubry, de qui est cette musique, parce que son nom n'est pas du tout nommé. Il n'y a aucune indication. Je l'ai trouvé sur Internet, mais je précise que je le diffuse quand même. J'aurais voulu avoir un avis à demander, quelque chose, ou du moins dire c'est une musique signée de Monsieur Intel. Eh bien, rien du tout. J'ai trouvé ça sous le titre « Musique cauchemar ». Et musique cauchemar. Alain Lafont, bonjour.
Bonjour Clotilde.
Ça va très bien avec votre trilogie Dreamwalkers?
Ça va très bien. C'est une belle aventure.
C'est une belle aventure et je vais aussi tout de suite vous présenter et lui dire bonjour. Il y a aussi donc Aurélie Aubry, donc
bonjour.
Vous avez entendu la voix. Ça va bien Aurélie?
Oui, très bien.
Qu'est-ce qui est le plus énervant de lire un bouquin comme ça ou de faire une émission de radio?
De lire un bouquin comme ça.
Ah oui, hein. Hâte que vous nous en parliez. J'ai hâte que vous nous en parliez. Alain Lafont, ça c'est aussi... C'est une histoire dans tous les sens du terme. Bon, je rappelle, ce livre-là, vous l'avez édité dans une petite maison d'édition, quasiment un compte d'auteur au départ?
C'est une maison d'édition que j'avais fondée moi-même.
Fondée vous-même.
Parce qu'à l'origine, c'était quand même un manuscrit de 800 pages.
Mais
et
oui.
C'était énorme pour une maison conventionnelle, considérant que moi, je viens d'un milieu tout à fait normal. J'ai pas de parents connus, j'ai pas un nom connu. Donc, le publier autrement que par moi-même, c'était au début que des échecs.
Ah oui, mais là, je vous interromps parce que je voudrais aussi qu'on parle vraiment du livre.
Oui.
Il a été publié à nouveau dans une autre maison d'édition.
Ils ont été repris tous les trois.
Les trois, c'est ça.
Après avoir remporté un prix d'excellence dans la première maison d'édition, ils ont été repris par Coup d'œil affilié à Goélette et disponibles actuellement partout dans les librairies, dans les pharmacies, vraiment à grandeur de la province.
Et si je vous ai invité, c'est parce que, vous le savez, cette émission est consacrée au livre audio. C'est que maintenant, on peut se procurer ce livre-là, tel que lu par la jolie voix d'Aurélie, comme vous l'avez entendu tout à l'heure. Alors, où est-ce qu'on peut se procurer ça? D'abord, je rassurerai tout le monde, gratuitement, au Service québécois du livre adapté. Vous pouvez l'avoir, évidemment, si vous avez une difficulté au niveau de la vue. Mais aussi en commercial, on peut se le procurer.
Mm-hmm.
Alors, sur toutes les plateformes qui existent, aussi bien de marques ici au Québec que Audible, vraiment toutes les plateformes commerciales. Alors, ce livre, Alain Lafont, en fait, la première question, mais qui êtes-vous, vous, pour écrire une pareille brique sur des gens malfaisants dans des rêves? D'où venez-vous, Alain? Est-ce que c'est pas votre métier, ça?
C'est pas mon métier original, mais je suis né à Montréal et j'ai rien d'extraordinaire dans le sens où, comme je l'ai dit, mes parents, c'est des parents normaux, c'est pas des parents connus, mais je suis un excellent lecteur.
OK.
Donc, l'origine de tout ça, c'est du fait qu'à l'école, j'étais un dévoreur de livres.
Uh-huh.
Je lisais n'importe quoi, j'aimais beaucoup le fantastique. Je me souviens des Bob Moran, je me souviens du Stephen King, j'attaquais de n'importe quoi. Et ça, ça fait travailler beaucoup l'imagination.
Et vous avez rêvé vous-même, parce que ça, vous l'écrivez d'ailleurs à la toute fin du bouquin.
Mm-hmm.
Ce rêve, quel lapsus, ce livre en trois tomes est issu de vos propres rêves.
C'est exact. J'en ai pas parlé souvent, mais c'est une question amusante que je trouve. Je fais beaucoup de rêves, personnellement, et j'ai le souvenir de ces rêves-là pendant des années. Donc, j'ai rêvé à l'âge de 7 ans d'une personne de ce livre-là, d'un de mes personnages, puis j'en ai rêvé à nouveau à l'âge de 15 ans. J'en ai rêvé à nouveau à l'âge de 25 ans. La personne, je la connais pas, mais elle a vieilli en même temps que moi. Puis, à chaque fois qu'on se revoit à intervalles de plusieurs années, on se donne des nouvelles.
Mais voyons donc!
Je ne l'invente pas, c'est comme ça.
C'est vrai?
Oui. Après la sortie du livre, d'ailleurs, quelques années après, je l'ai revue. Elle était rendue avec des enfants. Elle me racontait sa vie. Moi, je lui racontais où j'en étais rendu. Mais tout ça pour dire que le thème du livre, c'est « Et si c'était vrai? » Si c'était une vraie personne, imaginez le genre d'histoire que ça pourrait être. Et ça a été la base de mon livre.
Et parlons-en, parce qu'au départ, il y a une famille... Par les premières scènes, comme on les a entendues, il y a cette première scène qui est une scène vraiment qui fait peur, de cette petite fille qui court. Alors, à la suite de ça, il y a comme une bagarre, il y a un chien qui est là-dedans, il y a un personnage qui arrive avec son œil jaune et son œil rouge. Et là, tout de suite après, pouf, on part dans...
Le monde d'aujourd'hui.
Le monde d'aujourd'hui avec Sam et sa famille. Il est vétérinaire.
Il est vétérinaire, il a une petite vie normale lui aussi.
C'est ça.
Sa femme enseigne le piano, elle attend un bébé, il n'y a rien d'extraordinaire dans sa vie.
Sauf que. il rêve aussi. C'est-à-dire qu'il va s'apercevoir, ça c'est quelque chose qu'on peut dire quand oui. même, c'est relativement au début, parce que ça aussi je me suis posé la question. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire, qu'est-ce que je vais pouvoir pas dire? Mais donc, il va vite comprendre, après quelques morts, qu'il va laisser derrière lui, ça j'en dirai pas plus, qu'il fait partie de ces Dream Walkers, mais sauf qu'il y en a encore une fois qui l'utilisent à mauvais escient, mais lui, de toute façon, il savait même pas qu'il était capable de voyager.
Les voyageurs de la nuit, imaginez si vous aviez un pouvoir de voyager dans les rêves. Comment feriez-vous, vous, pour savoir si vous êtes dans votre propre rêve ou dans celui de quelqu'un d'autre?
Oui, c'est une bonne question.
Il n'y a pas de moyen de savoir. Donc, pour Sam, pour le personnage de mon histoire qui s'appelle Samuel, pour Sam, il n'y a aucune différence entre son propre rêve et celui des autres. Donc, ce ne sont que des rêves. Pour lui, le fait d'avoir sauvé une fillette quand il était jeune, ça n'a jamais existé. La fillette n'a jamais existé. Il n'y a aucun souvenir de ses rêves parce que 20 ans plus tard, qui se souvient de ses rêves-là, à part bon, quelques exceptions comme moi? Mais...
Surtout s'il est rentré dans l'esprit de quelqu'un, finalement, ce n'était pas son rêve à lui.
C'était pas son rêve à lui. Donc, mais imaginez le pouvoir de quelqu'un comme ça, si c'est à mauvais escient. Vous passez outre toutes les protections, toutes les inhibitions de la personne. Vous pourriez, à la limite, l'influencer. Vous pourriez aller chercher l'information, la rendre joyeuse, la rendre triste, la rendre suicidaire. Il n'y a pas de juge qui pourrait la condamner. Il n'y a pas de loi contre ça, parce que même si vous pouviez le prouver, personne ne vous croirait, parce qu'officiellement, un don comme ça, ça n'existe pas.
Et c'est pas facile à écrire. Je vous félicite sur une chose, notamment, parce que je vous félicite sur plein de choses dans ce bouquin, mais... tout est toujours très clair. Alors que c'est pas évident, parce que justement, est-ce qu'on est dans le rêve, est-ce qu'on est dans l'onirique ou est-ce qu'on est dans la réalité? Il y a des moments où au début, je me suis dit, qu'est-ce que c'est ça? Mais finalement, je comprenais tout. Je disais, ah ok, d'accord, c'est clair. Et puis même dans les scènes aussi d'aventure, vous avez une imagination, mais alors, féconde, mais c'est rien de le dire. Il se passe des choses à chaque... C'est même pas à chaque page, c'est à chaque paragraphe. On est essoufflé, comme eux, parce qu'ils se font pourchasser, hein, au début, la famille. Ils ne comprennent rien. Pourquoi un vétérinaire et sa blonde enceinte se feraient-ils pourchasser? Mais ils se font pourchasser.
Ils se font pourchasser par quelqu'un qui affirme des choses absolument impossibles qui se seraient passées à l'autre bout du monde. C'est un cinglé pour mon personnage principal. Bien sûr. Il n'y a pas d'autre terme. C'est un fou furieux qui lui en veut, mais c'est un cinglé comme on en voit... dans la vraie vie aujourd'hui.
Victor. Victor, il s'appelle. Hein? Et puis, bon, moi, évidemment, il y a une question, et je vous remercie de me l'avoir soufflé. Je ne vais pas avoir l'air intelligente en pensant que c'est moi qui y ai pensé, c'est vous qui y avez pensé. Mais est-ce que vous croyez à ces histoires-là? Est-ce que vous croyez à ces rêves comme ça? Est-ce que vous y croyez, vos histoires?
J'aimerais bien. Ça serait un pouvoir que j'adorerais avoir. Malheureusement, je ne crois pas à tout ce que j'écris. Ou heureusement, c'est pour dépendant du point de vue. Là, heureusement, dans mon cas, je vois pas à tout ce que j'écris. Sinon, je serais enfermé dans un asile quelque part et on aurait déjà jeté la clé.
Non.
Aussi, avec le genre de rêve que je fais,
Ah oui? Encore maintenant?
Bien sûr.
Et vous les écrivez?
J'ai une douzaine d'autres livres qui vont être à l'origine... dont l'origine est un rêve quelque part. C'est beaucoup plus facile de partir une idée d'une scène que vous avez déjà vue et que vous avez déjà vécue dans un sens.
Alain, tout le monde, je voudrais, avant qu'on se tourne vers Aurélie Aubry, je voudrais qu'on écoute une chanson qui, a priori, n'a peut-être pas de rapport direct avec des rêveurs, mais qui a un rapport direct avec une petite fille qui court dans la nuit et qui se fait pourchasser. Et à chaque fois que j'ai ouvert ce livre, à chaque fois, j'ai pensé à cette chanson de Claude Nougaro, qui sera tout de suite suivie par un autre extrait de votre Dreamwalkers, le tome 1, qui s'appelle Les Voyageurs de la Nuit, lu par Aurélie Aubry.
Petite fille en pleurs dans une ville en pluie, et moi qui cours après, et moi qui cours après au milieu de la nuit, mais qu'est-ce que je lui ai fait? Une petite idiote qui me joue la grande scène de la femme délaissée, et qui veut me faire croire qu'elle va se noyer. C'est de quel côté la scène? Mais qu'est-ce que je lui ai fait? Qu'est-ce qu'elle me reproche? Qu'est-ce qui lui a pris? Lorsque je l'ai trompée, elle l'a jamais appris. C'est pas elle qui s'approche,
Tu m'aimes vraiment, dis-moi, tu m'aimes, tu m'aimes, tu m'aimes. C'est tout ce qu'elle sait dire, en bouffant, me rasant. Quand je voudrais dormir, faut lui dire que je l'aime. Une petite fille en pleurs dans une ville en pluie. Où est-elle, nom de Dieu? Elle a dû remonter par la rue de Rivoli. J'ai de la flotte plein les yeux, parce qu'elle avait rêvé, je ne sais quel amour absolu éternel. Il faudrait ne penser, n'exister que pour elle, chaque nuit, chaque jour. Voilà ce qu'elle voudrait, seulement il y a la vie, seulement il y a le temps. Et le moment fatal où le vilain mari tue le prince charmant. L'amour sans bel amour, il ne vaut pas bien cher contre un calendrier. Le battement de son cœur, la douceur de sa chair. Je les ai oubliés. Où donc est-elle partie? Voilà qu'il pleut des cordes, mon Dieu, regardez-moi. Me voilà comme un con, place de la concorde. Ça y est, je la vois. Attends-moi. Attends-moi. Oui, je t'aime. Je t'aime. Attends-moi.
C'est alors que la chose s'était mise à rire, un rire comme à la télé, dans les films pour les grands que son frère regardait. Des films avec des monstres horribles. La chose devait être monstrueuse, elle le savait sans l'avoir réellement vue. Depuis cet instant, elle n'avait qu'une pensée, fuir. Elle espérait même trouver n'importe quelle grande personne, et tant pis si papa se met en colère parce qu'elle s'approche d'un inconnu. Elle avait tellement peur de la chose qu'elle se jetterait dans les bras de toute personne qu'elle trouverait, même si c'était un monsieur et qu'il lui offrait des bonbons. Promis juré, elle lui sauterait au cou, même s'il était ce monsieur de la maison au bout de la rue, celui dont Clara, son amie, avait un jour raconté qu'il enlevait les enfants pour leur faire laver la vaisselle toute la nuit. Ça ne pouvait pas être pire que la chose qui était derrière elle. Elle tourna un nouveau coin de ruelle, faillit déraper sur quelque chose qui ressemblait à un sandwich, et se cogna contre le mur de briques, déchirant sa robe de nuit. Elle poussa un cri de surprise, mais aucun son ne sortit de sa bouche, et la chose se remit à rire, plus proche encore. Elle prit son élan, le prochain croisement semblait s'éloigner au fur et à mesure qu'elle courait, au lieu de se rapprocher. Mais elle sentait que c'était le bon cette fois, et qu'après le prochain tournant, elle allait se retrouver sur une rue avec des grandes personnes. Plein de grandes personnes. Elle serait sauvée. Je suis fatiguée de jouer. Si tu ne cours pas plus vite, je vais t'attraper et te manger. La voix était grave, sifflante. C'était la voix de la chose. La peau du cou de la fillette se hérissa au son de cette voix qu'elle entendait pour la première fois. La panique s'empara d'elle.
Aurélie ?
Oui,
rebonjour. Aurélie, c'est une véritable prouesse que vous avez fait là. C'est, vous avez lu ce livre et je précise qu'Aurélie l'a lu absolument seule. C'est-à-dire qu'en principe, on a toujours un moniteur en face de nous pour nous reprendre parce que c'est humain. Nous ne sommes pas des machines, nous ne sommes pas des voix de synthèse. Et donc, les erreurs sont malheureusement fréquentes, du moins pas rares, et ce n'est pas anormal. Aurélie, comment vous avez réussi ça? C'est combien? C'est 1800, 1900 pages, toute seule?
1800 pages, oui.
Ça représente combien d'heures de lecture, savez-vous?
C'est à peu près 150 heures de studio. Donc, oui, ça fait 70 heures après en commercial.
Mais... Comment vous avez vécu cette aventure-là? Est-ce que... Parce qu'il faut quand même un petit peu aimer le fantastique pour tomber là-dedans.
Oui.
Bon, non, mais imaginez quelqu'un qui n'aime pas le fantastique, je veux dire, c'est long, longtemps. Comment vous avez reçu ce livre-là en tant que lectrice à haute voix de ce bouquin?
Comment je l'ai reçu?
Ouais. Mais est-ce que ça vous a... Est-ce que vous y pensiez? Est-ce que vous en rêviez justement la nuit?
En fait, j'avais eu beaucoup de livres auparavant, plutôt à l'eau de rose. Mmh. Donc, des romans historiques avec beaucoup de robes à crinoline, des dames en pamoison. Et j'avoue que j'en avais un petit peu marre de lire ce genre de livre. Ouais. J'ai demandé à avoir un petit peu plus d'action, un petit peu plus de, justement, fantastique. Et quand on m'a proposé ce premier tome de Dreamwalkers, j'ai sauté sur l'occasion. J'ai dit oui, bien sûr. Quand j'ai lu la quatrième de couverture, j'ai fait « Oh, waouh, ça va être vraiment intéressant. »
Oui, parce qu'en plus, ce que je remarque de la part d'Alain Lafont, ça m'embête de dire du mal de lui pendant qu'il est là, mais c'est qu'il a une très belle plume aussi.
Oui.
Il écrit bien, je veux dire, c'est pas écrit n'importe comment, ça, là. On n'est pas dans le léger, dans la petite littérature.
Non.
C'est drôlement bien écrit.
Très clair aussi, très compréhensif. Et puis, les histoires sont... Il y a énormément de rebondissements, il y a énormément de personnages attachants. Donc, tout ça entremêlé fait que c'est un vrai plaisir de lecture.
Et on ne s'y perd pas.
Non, tout est clair. Et j'avais vraiment hâte de connaître la suite, paragraphe, page après page. Et puis, quand les sessions se terminaient, c'était...
Qu'est-ce qui est le plus difficile? Ah oui, à chaque session, c'est ça. Hein. Qu'est-ce qui est le plus difficile? Les personnages? Ou plutôt la narration, plutôt... Qu'est-ce qui vous semble, à vous, le plus difficile? Comme par exemple, cet homme-là qui siffle comme ça, est-ce qu'on doit... Parce qu'il ne faut pas en faire trop non plus.
Il ne faut pas en faire trop,
sinon c'est terrible.
Effectivement, on n'est pas dans le théâtre non plus.
Non, c'est ça.
Mais par contre, il faut faire comprendre à l'auditeur, pardon, qu'on change de personnage.
Bien sûr.
Parce que quand on lit, c'est facile, on a un tiret, puis on revient à la ligne.
Voilà.
Même si on dit, même s'il n'y a pas écrit « dit Paul » ou « dit Suzanne ». Donc, en lecture, c'est beaucoup plus facile de savoir quand on est dans un dialogue. Pour l'auditeur, il faut vraiment qu'il puisse comprendre quand on passe de la narration au dialogue et quand on est dans un dialogue d'un personnage à un autre. Sans trop en faire non plus.
Donc, mais parce que là, entre l'autre taré là, et puis, et puis des personnages de femmes et des personnages d'enfants, j'imagine, etc. Vous savez, c'est la même voix. C'est pour ça que quand je dis que c'est une prouesse, qu'elle ait fait ça toute seule, waouh, vraiment. Je me retourne à nouveau vers vous, Alain Lafont. C'est donc une trilogie, il y a trois tomes. Est-ce qu'on suit Sam pendant les trois tomes? Est-ce que c'est vraiment le personnage central ou le
C'est le personnage central.
Okay.
Sam est le personnage central, mais c'est une trilogie, ce n'est pas une saga. Dans le sens où je ne fais pas vivre au lecteur ce que moi, je n'aime pas vivre personnellement. Le premier tome a sa conclusion, il se termine. À la limite, Les Voyageurs de la Nuit, on pourrait le lire comme un roman seul.
Ah oui?
Oui.
Bien.
Mais...
On ne serait pas complètement perdu si on ouvre le...
Il faut commencer par le premier tome, par contre.
Ah, bon, OK.
Mais le deuxième tome, à la limite, on pourrait ne pas le lire. On a une histoire complète avec le premier. Le deuxième reprend l'histoire 8 ans après la fin du premier tome et le troisième 5 ans après la fin du deuxième. Dans la conclusion du premier tome, j'introduis un personnage qui devient un personnage clé du deuxième tome.
C'est... Parfait.
Mais Sam, lui, reste... Pour la durée des trois tombes, c'est mon personnage principal.
Et on s'en va de plus en plus dans le fantastique, ça veut dire on va délaisser de plus en plus le côté humain ou est-ce que les deux vont se côtoyer constamment dans ces trois tombes-là, Aurélie? Est-ce qu'à un moment donné,
les deux toujours, à chaque fois.
Oui, parce qu'en même temps, j'imagine que pour nous lecteurs ou auditeurs, c'est une balise. On a besoin à un moment donné de revenir les pieds sur terre, finalement.
C'est un dérapage vers le fantastique, mais on part d'un monde réel. Donc, c'est quelque chose qui pourrait se passer aujourd'hui. Mm-hmm. C'est un roman qui est adressé aux 15 ans et plus, aux adultes, mais les adultes ont une base réelle, ils ont les pieds sur terre. Mm-hmm. Fait qu'il faut les ramener, puis ensuite, on les fait déraper un petit peu. C'est ça qui est amusant. Mm-hmm. Puis on met une bonne dose de suspense là-dessus. Ça rajoute un piquant ou est-ce que les gens ont un peu de difficulté ensuite à laisser tomber?
Alors, Les Voyageurs de la Nuit, qu'on retrouve, parce que le personnage du méchant aussi, il est là tout le temps, lui.
Il
va disparaître à un moment donné?
Il n'est pas dans le tome 2 du tout.
Ah!
Je peux déjà dire ça.
Bon.
Sans,
allez, hop, un de moins. Bon,
allez, hop, un de moins.
En voilà un à faire régler.
Mais sans dévoiler de poche, je dirais qu'il revient brièvement dans le tome 3.
Il a son rôle. D'accord. En ce moment, vous avez rêvé suffisamment pour vous remettre sur la table de travail?
C'est déjà commencé. Absolument.
Et est-ce que vous allez appeler Aurélie pour qu'elle lise à nouveau ce...
Si le projet est accepté, hein? c'est sûr que ça serait... Avec ça serait une joie plaisir. Pour moi.
Vous savez ce que je vous souhaite maintenant? C'est peut-être une image, parce que je sais pas, il me semble qu'il y aurait un film à faire avec ça. Aurélie, vous ne trouvez pas, vous?
Oh oui.
Il y aurait un film fantastique. Mais comment? Mais justement, ce serait difficile d'amener les gens une fois dans le rêve, une fois dans la réalité.
En fait, le plan de scène est déjà prêt, ainsi que le résumé des deux premiers pilotes.
C'est pas vrai.
Oui.
Bon, oh ben je suis contente.
Mais il n'y a pas de réalisateur, c'est ce qui manque.
Non, c'est ça, c'est ce qui manque. Alors on n'en parle pas plus, mais vous viendrez nous en reparler. Alain Lafont et Aurélie Aubry, merci beaucoup. Il est l'auteur de The Dream Walkers, un thriller fantastique en 3 tomes, et elle est sa lectrice. Aurélie, Alain, merci infiniment. Salut.
Merci.
Des livres plein les oreilles, la suite en cette seconde partie. Yannick Olassat ravive en nous le souvenir de Banksy, au pays des graffeurs nocturnes. Hélène Gauthier, bibliothécaire au SQLA, vous donne la chance de vous procurer des livres audio propices aux soirées d'hiver et même, pourquoi pas, glisser sous le sapin. Après tout, c'est dans quelques semaines, Noël, autrement dit, c'est demain. Hein. Et puis, le prix Audiolib de l'année 2018 est remis à Quand sort la recluse de Fred Vargas. Et puis, bien sûr, il y aura plein d'extraits sonores pour illustrer le partage de ces livres. Je m'appelle Clotilde Seille, j'anime Des livres plein les oreilles à Canal M et on commence en chanson, une chanson de Demis Roussos, incroyable mais vrai, mais c'est pour nous plonger dans l'univers des mots et des images qu'on dessine sur des murs quand on ne sait pas dire les choses autrement.
Cette part
On écrit sur les murs, chanson sûrement pas écrite par Demis Roussos, mais en tout cas c'est lui qui la chantait, et qui nous amène tout droit vers Yannick Olassa, qui nous amène, elle, au pays de ces gens qui écrivent sur les murs. Bonjour Yannick.
Oh, quel concept! Bonjour!
Êtes-vous fière de moi?
Absolument! Wow!
Alors, la patience du franc-tireur.
Oui, ça se passe en 1990 et on commence à Madrid, mais on va se promener en Italie, en Espagne et au Portugal. Ah, la chaleur! Mmh. Alors, l'histoire, en fait, c'est qu'il y a l'ex qui s'appelle, en fait, Alejandra Varela.
Oh, vous l'avez!
Oui, historienne de l'art urbain, qui est chargée d'offrir à Sniper, un graffiteur espagnol talentueux, genre de guérillero, pardon, à la tête d'un mouvement de contestation de l'ordre établi, donc un graffiteur, hein, je rappelle, dont personne n'a jamais vu le visage. Donc, elle doit lui offrir une exposition au MoMA, qui est le Museum of Modern Art. Et elle veut aussi écrire un livre sur lui. Bien sûr, ce ne sera pas facile de le trouver parce que c'est un clandestin. Hein? Vraiment, là, on entre dans le monde des graffiteurs. Et là, elle va se livrer à une traque qui sera périlleuse, notamment parce que la tête de Sniper a été mise à prix par un riche homme d'affaires dont le fils est décédé en tombant du haut d'un immeuble en tentant de relever un des défis lancés par Sniper. Parce que Sniper lance des défis dangereux aux graffiteurs. Et c'est un être assez particulier. Hein? Il détruit ses fresques lorsque on dit qu'on veut les protéger puis que c'est une belle œuvre d'art. Lui, il ne veut pas cette reconnaissance-là. Donc, il détruit ses fresques. Il vit de façon très, très clandestine. Et le monde des graffiteurs, hein, c'est la nuit que ça se passe.
Oui.
Généralement, parce que c'est illégal, hein, de graffer sur les murs. Donc, sur les murs, sur les trains, les grands immeubles et tout ça. Alors, on voit vraiment là un parallèle avec Banksy.
Oui.
Qui, dans la vraie vie...
ah oui, je disais Banksy, mais c'est Banksy, hein, pardon. Banksy. Oui, c'est ça. Oui, excusez, oui.
Qui, lui, dernièrement, d'ailleurs, à une de ses œuvres, s'est autodétruite au moment où elle a été vendue.
Ah, c'est lui, ce fameux! Mais oui. OK.
Donc, on voit très bien le parallèle parce que lui non plus veut pas entrer dans l'aspect mercantile de l'art. Et c'est ce que je trouve intéressant de ce roman, c'est que ça suscite une réflexion sur l'art et sa fonction. Est-ce que c'est de faire joli? Est-ce que c'est de faire réfléchir, d'émouvoir ou même de dénoncer? Donc ça, c'est une des forces du livre, en plus de son suspense avec une fin absolument surprenante. Là.
Ah oui?
Oui. Moi, j'ai été vraiment surprise. J'ai adoré ce livre-là. J'ai trouvé ça fascinant. On l'avait lu en 2014 pour le club de lecture de la revue Châtelaine et tout le monde avait adoré.
Hein? Alors, on le retrouve au SQLA, bien sûr, mais bon, le problème avec le SQLA, souvent, c'est que c'est un petit peu difficile pour trouver un extrait ou alors il faudrait que j'aille demander à mes propres camarades quand c'est lu chez Vues et Voix, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais par contre, j'en ai trouvé une autre version qui est présentée sur les plateformes commerciales. Alors, malheureusement, je n'ai pas noté le nom du lecteur, mais en tout cas, je vous en propose donc un extrait de ce livre de la nuit, au pays d'ailleurs des graffeurs. C'est marrant parce qu'en France, ils disent les graffeurs.
Oui, c'est ça. Et au Québec, on dit les graffiteurs.
Oui, c'est ça, exactement. Alors, restez avec nous pour l'instant et puis on en écoute un petit extrait.
Putain ! Murmura le plus grand des garçons. Il restait immobile à côté de son camarade, regardant, stupéfait. Celui qui travaillait au mur avait fini de mettre de la couleur dans les lettres et maintenant, après avoir fouillé dans son sac, en s'aidant d'une petite lampe torche, il saisissait un aérosol blanc avec lequel il couvrait l'intérieur du point de la lettre centrale qui était un I. Avec des mouvements rapides, par touches courtes et précises, le graffeur remplit le cercle et fit ensuite s'y croiser deux lignes noires, l'une verticale et l'autre horizontale, qui lui donnaient l'aspect d'une croix celtique. Puis, sans même un coup d'œil au résultat final, il se pencha pour ranger le spray dans le sac, ferma celui-ci et le rechargea sur son dos. Le cercle formé par le point du « i » s'était transformé en mire d'un viseur télescopique semblable à celui des fusils de précision. Le graffeur disparut dans la rue, se perdant dans l'obscurité, le visage caché sous la capuche, agile et silencieux comme une ombre. Les deux garçons en profitèrent pour quitter leur coin et se rapprocher du mur. Ils restèrent quelques instants sous la lumière du lampadaire, à regarder le travail tout neuf. Ils sentaient la peinture fraîche, l'écriture parfaitement maîtrisée. Pour eux, la meilleure odeur du monde. Odeur de gloire urbaine, de liberté illégale, de renommée dans l'anonymat.
Alors j'ai tout faux, c'était pas un lecteur, c'était une lectrice, comme vous l'avez entendu, mais vous savez, j'en prépare quelques-uns des extraits pour ces émissions-là, oui. Et voilà, là c'est une confusion, mais c'est pas bien bien grave. Alors je rappelle qu'on écoutait un extrait de La patience du franc-tireur d'Arturo Pérez Reverte, ou Reverte, on va l'appeler comme ça, peut-être pour que ce soit plus facile à trouver, surtout si on se le procure via le SQLA, ça s'écrit comme ça se prononce, Pérez, P-E-R-E-Z, trait d'union, Reverte, R-E-V-E-R-T-E, et donc qui parle de Banksy, comme vous nous l'avez dit. Ça devait être lui, hein, ce personnage glauque là, dans la nuit,
oui,
qui était en train de...
Hein.
Très belle écriture aussi. Merci beaucoup, Yannick Olassa.
Au plaisir.
On se retrouve très prochainement sur les ondes.
Oui.
Bonne lecture.
Merci beaucoup. Salut. Au revoir.
On va parler de l'hiver. Mais oui, on a les deux pieds dedans. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse, mes chéris? C'est comme ça. Il y a un disque qui va sortir, ou peut-être même au moment où on se parle, où je vous parle, qui vient tout juste de sortir et qui va réchauffer nos nuits d'hiver, laissez-moi vous le dire. C'est le dernier album de Christine Tasson et les Imposteurs qui s'appelle Django Bell. Tous les ans, cette gang de filles-là, sur la rue Saint-Denis, sont ensemble. Donc, c'est vraiment une dizaine de musiciennes sur à peu près 10 mètres carrés. Et le party est lancé. Il n'y a pas beaucoup de chansons de Noël. Ce sont surtout des chansons d'hiver sur un son manouche. Et là, elles se sont dit, tiens, on va aussi le mettre sur disque parce que finalement, il n'y a que quelques élus, le public qui va à cette soirée-là. Elles se sont dit, les filles... Allez, on va ouvrir l'ambiance à tout le monde. Alors encore une fois, c'est pas un disque de Noël, mais c'est un disque d'hiver qui s'ouvre notamment sur une chanson qui s'appelle « Maudit hiver ».
Les dents serrées, les mains gercées, les batteries à terre. Jaillit l'hiver, maudit hiver. Chez nous l'hiver c'est comme le hockey. Y'a des finales jusqu'au mois de mai. L'été c'est la saison gênée, on ne l'a jamais vu passer. Vacances mouillées, rivières polluées, un jour on gèle. Lendemain on crève, les marins ne font jamais de grève. Pile vent entonne l'hymne à l'automne pour me rappeler. Que jaillit l'hiver, maudit hiver. Les dents serrées, les mains gercées, les batteries à terre. Jaillit l'hiver, maudit hiver. Chez nous l'hiver c'est comme le hockey. Y'a des finales jusqu'au mois de mai. L'automne c'est bon mais court à mort, un bon de semaine multicolore. On monte dans le nord voir le décor, le temps de faire graine. et mon laurier. Les feuilles étaient toutes tombées à terre, l'automne venait de changer en hiver pour me rappeler que j'aguis l'hiver. Maudit hiver, les dents serrées, les mains gercées, les batteries à terre. J'haïs l'hiver, maudit hiver. Chez nous l'hiver c'est comme le hockey, y'a des finales jusqu'au mois de mai. Enfin le printemps nous surprend, les pieds dans boîte, la tire au bec. Guéris ta grippe, change tes snow, grippe les verts bourgeons, l'isolation. Oui mais le printemps ne dure qu'un mois, le temps de déjeuner, l'été là pour me rappeler.
Heureusement, oui, il y a les imposteurs, avec des cuivres, hein, vous avez remarqué, pour une fois, là, ce ne sont pas que des cordes. Elles ont rajouté trompette et trombone, et cette chanson d'hiver nous amène vers une chronique hivernale de Hélène Gauthier. Bonjour Hélène.
Bonjour.
Hélène, je rappelle que vous êtes bibliothécaire, je vais le dire, au SQLA. Alors, vous nous arrivez avec plusieurs suggestions, dont une qui n'est peut-être pas encore tout à fait disponible, mais qui va l'être bientôt.
Exactement, oui. Je n'ai pas les dates exactes. J'ai appris la nouvelle juste avant de venir enregistrer. Mm-hmm. Donc, au SQLA, on nous demande souvent les BD Paul.
Oui.
Malheureusement, on ne les produit pas parce que c'est un médium si visuel, c'est très difficile à produire en audio. Mais on vient d'apprendre que Radio-Canada allait créer la BD Paul dans le Nord en format, on dirait... pièce théâtrale, mais radiophonique.
Okay.
Donc, une grosse production avec une distribution de 27 comédiens. Quand même.
On a les moyens ou on les a pas.
Exactement.
Mais tant mieux si ça fait des belles affaires.
Et ça va faire plaisir
ben oui.
aux gens.
Bien sûr.
Donc, Paul sera interprété par le jeune Pierre-Luc Funk.
Ouais.
Donc, ça se passe dans les années 75-76. Il y a les Jeux olympiques à Montréal. Il y a une petite partie, bon, dans le Nord, hein, pour les Montréalais, dans le Nord, c'est la Montérégie, là. C'est pas si loin que ça, mais c'est quand même les Laurentides, c'est quand même l'hiver. Et les Radio-Canada vont aussi profiter de ses archives sonores, radiophoniques dans cette production.
Wow.
Donc, beaucoup de musique, des extraits des Jeux olympiques de Montréal, tout ça va être porté à contribution pour créer quelque chose qui, je crois, sera très intéressant et sera disponible vers Noël, donc très, très bientôt.
Et c'est gratuit hein, sur le site de Radio-Canada, donc c'est toujours intéressant.
Oui, sur la plateforme de Radio-Canada.
Alors, La ville des voleurs de David Benioff, de quoi s'agit-il?
Donc, ça se passe en 1942 dans la ville de Leningrad, qu'on connaît maintenant comme Saint-Pétersbourg. Donc, c'est pendant le siège de Leningrad. Ceux qui connaissent peut-être un peu moins l'histoire, c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale, cette ville-là était sous le siège, donc les Allemands étaient autour et attendaient, et les Russes restaient dans leur ville et ben, se mouraient, on va le dire. Il fait froid, il n'y a pas de nourriture. Donc, on a deux hommes qui sont en prison. Un jeune homme qui s'appelle Lev, qui est basé sur les souvenirs du grand-père de l'auteur, David Benioff, et son compagnon Kolia, qui est un soldat. Donc, les deux sont dus à être exécutés. Le jeune homme parce qu'il a volé et le soldat parce que c'est un déserteur. Mais on leur offre un ultimatum. S'ils sont capables de dénicher une douzaine d'œufs pour faire un gâteau pour l'anniversaire de la fille d'un puissant colonel, on va leur donner leur vie. Donc, les deux se lancent dans cette ville sous le siège et errent et tentent de trouver quelque chose qui nous paraît si simple, une douzaine d'eux. Mm-hmm. Mais dans cette situation, peut être très compliqué pour tenter de se sauver. Donc, c'est très drôle. Mm-hmm. C'est cette amitié qui se développe entre ces deux hommes si différents. C'est excitant. C'est un roman d'aventure, vraiment. c'est une belle quête. Puis ça pourrait facilement faire un film, on va le dire. Donc, un livre très palpitant, La ville des voleurs de David Benioff.
Le poids de la neige, ça, c'est un livre dont on a déjà parlé, mais je trouve qu'on n'en parlera jamais assez.
Mais c'est exactement, je trouve ça drôle, parce que c'est exactement le contraire de la ville des voleurs. On trouve encore deux hommes, mais cette fois-ci, c'est un huis clos. Exactement. Mais toujours avec le froid, la neige. Donc, c'est le deuxième roman de Christian Guay-Poliquin, qui est très jeune, mais qui déjà est très apprécié par les critiques. Donc, son premier film, Le fil des kilomètres, on retrouve le même personnage, mais cette fois-ci, le personnage se retrouve dans un petit village. Il est blessé en convalescence et il est pris carrément sur la véranda d'une maison. Il est prisonnier parce que c'est l'hiver, il y a de la neige partout, il n'y a plus d'électricité, puis sur la véranda, ben, il y a un poêle à bois. Donc, c'est le seul endroit où on ne va pas geler. Et il est accompagné d'un vieil homme qui, lui aussi, ne peut pas quitter le village. Donc, ils sont là, les deux. Ils se font visiter par des gens du village. Il y a toutes les rumeurs du village aussi qui viennent les retrouver sur la véranda. Donc, même si on ne quitte jamais cette véranda, c'est vraiment un suspense. Mmh. Et ça nous tient vraiment en haleine.
Un petit extrait.
Au début, Mathias devait me forcer à manger pour que je récupère et reprenne des couleurs. Il m'aidait à me redresser et me nourrissait patiemment, à la petite cuillère, comme un enfant. Aujourd'hui, j'arrive à m'adosser aux oreillers par moi-même. La douleur et la fatigue persistent, mais j'ai retrouvé l'appétit. Lorsqu'il parvient à mettre la main sur quelques litres de lait, Mathias fait du fromage avec la présure qu'il a trouvée dans la laiterie de l'étable. Parfois, il en donne à des gens du village. Mais souvent, il est si bon que nous le dévorons en quelques jours. À même le tissu dans lequel il s'est égoutté. La cicatrisation de mes blessures me prend beaucoup d'énergie. Tout comme évaluer le temps qui passe. Je devrais peut-être faire comme Mathias et dire simplement avant la neige ou depuis la neige. Mais ça serait trop facile.
Très lent comme rythme, comme j'imagine. Entre ces deux-là, ça ne doit pas se passer non plus. Ça ne doit pas être très aventureux, quoi.
Oui, exactement. Et ça reproduit vraiment la neige.
La neige, hein, c'est
d'être
ça.
D'être pris la lourdeur. Dans cet endroit. Exactement.
Alors, on a encore deux petites minutes. Ça nous permet de présenter deux autres livres. Christmas Pudding.
Oui, je voulais les présenter ensemble. Je trouve ça toujours le fun à Noël de prendre le temps des petits policiers classiques. C'est réconfortant. Ça. Donc, deux. Christmas Pudding de Agatha Christie et Un Noël de Maigret de Georges Simenon. Les deux sont disponibles au SQLA. Les deux sont de longues nouvelles ou de courts romans. Là, comme vous le voulez, ça dure 2-3 heures. Donc, Christmas Pudding met en vedette le classique personnage d'Agatha Christie, Hercule Poirot. Celui-là, je l'aime particulièrement parce qu'il n'y a rien comme un Noël à l'anglaise. C'est tellement réconfortant, tellement typique. Oui. Donc, Hercule Poirot veut résoudre une affaire de rubis disparu, se fait inviter dans un manoir pour vivre un Noël typiquement anglais. Et soudainement, évidemment, il y a une victime qu'on retrouve et là, Hercule Poirot doit résoudre le crime. Donc, c'est très sympathique d'Agatha Christie. Et finalement, Un Noël de Maigret de Georges Simenon, un petit peu différent. Celui-là se passe en France, à Paris, évidemment. On reste au même endroit, c'est le matin de Noël. Il y a deux personnes qui viennent voir Maigret parce qu'il y a une petite fille qui a été visitée par le Père Noël, qu'elle dit. Elle était dans sa chambre, elle dormait, le Père Noël est entré, il a fouillé dans son plancher, puis il lui a donné une poupée et il est parti. Et voilà, qui est... donc on se pose la question, mais pourquoi?
Oui, c'est ça.
Était-ce vraiment le Père Noël? Oui, on ne le croit pas. Donc, Maigret va tenter de résoudre ce mystère.
C'est un Maigret Stephen King.
Oui.
Genre. Ah non, mais alors, ça pourrait être du Alain Lafont qu'on a reçu en première partie avec ses Dreamwalkers. Hélène Gauthier, c'est toujours un plaisir de vous recevoir pour nous parler de tous ces livres qui, je vous le rappelle, sont soit gratuits via le SQLA pour les personnes qui présentent une déficience visuelle ou perceptuelle, quelle qu'elle soit, ou encore des livres payants que vous pouvez vous procurer, qui sont lus par d'autres personnes, soit bénévolement ou pas, et ce sont des plateformes comme De Marque, comme Audible, comme Audiolib, comme... Là, évidemment, il y a un spectre beaucoup plus large, hein, le choix est beaucoup plus large commercialement, parce qu'on ne peut pas tout lire non plus gratuitement, mais n'oublions pas quand même ce service que Vues et Voix continue tant bien que mal à vous rendre. Voilà, pour vous amener vers mon dernier thème du jour... vers Fred Vargas et le prix Audiolib 2018 de son petit dernier qui s'appelle « Quand sort la recluse ». Tiens, un thème, une bande originale de film, au moins une minute ou deux. Alors, c'est quel film? Écoutez bien, ça vous évoque quoi, ça? Ça commence très doux, puis tout d'un coup, ça va partir. Ça gigote pas mal, ça s'agrippe sur des immeubles. C'est comment? C'est rouge et c'est bleu, il me semble. Hein? C'est rouge et c'est bleu. Alors, non, ce n'est pas les quatre filles du Dr. March. Évidemment qu'on est dans le film d'aventure. Allez, je vous le dis, c'est évidemment Spider-Man, la musique du film, de la bande originale du film Spider-Man. Je vais finir par le dire. Alors, tout ça pour vous présenter donc ce prix Audiolib 2018. Trois morts, c'est exact. Qui parle? C'est Danglars. Mais cela regarde les médecins, les épidémiologistes, les épidémiologistes, les zoologues. Nous, en aucun cas, ce n'est pas de notre compétence. Ce qu'il serait bon de vérifier, dit Adamsberg. J'ai donc rendez-vous demain au Muséum d'Histoire Naturelle. Je ne veux pas y croire, je ne veux pas y croire. Revenez-nous, commissaire, bon sang, mais dans quelle brume avez-vous perdu la vue? « Je vois très bien dans les brumes, » dit Adamsberg un peu sèchement, en posant ses deux mains à plat sur la table. « Je vais donc être net. Je crois que ces trois hommes ont été assassinés. »« Assassinés !» répéta le commandant Danglars. « Par l'araignée recluse !»« Et une musique qui vous rappellera sûrement quelque chose ou quelqu'un. » Un extrait.
Adamsberg arracha d'un coup sec les crampons du sac et l'ouvrit tout grand. Il sursauta et lâcha le tout qui tomba au sol avec un bruit lourd et mou. Cela faisait des années que le commissaire n'avait pas sursauté. Sa nature peu nerveuse, voire infra-nerveuse, ne l'y prédisposait pas. Mais outre l'odeur pestilentielle qui s'était dégagée du sac, le spectacle hideux lui avait causé un choc. Une tête animale répugnante, aux yeux fixes, ouvrant une énorme gueule bardée de dents terrifiantes.
« Qu'est-ce que c'est que cette merde ? »
cria-t-il.
« C'est mon poissonnier !»
commença Voisenet.
« Ce n'est pas votre poissonnier !»« C'est une murène de l'Atlantique à robe marbrée !»
répondit Voisenet avec hauteur.
« Plus exactement, une tête de murène avec 16 cm de corps. Et non, ce n'est pas une merde. C'est un magnifique spécimen mâle qui atteignait 1,55 m de longueur.
Si vous aimez Fred Vargas, là, il paraît que celui-là, c'est vraiment l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur, du Vargas à l'état pur, qu'on peut se procurer gratuitement au SQLA ou encore sur les sites commerciaux. Voilà, c'est ainsi que se referme ce magazine, des livres plein les oreilles, animé pour vous par Clotilde Seille. Merci beaucoup de l'avoir suivi et merci à mes invités. J'ai nommé Alain Lafont, auteur de la trilogie Dreamwalkers, Aurélie Aubry, qui a lu pour nous ce livre-là, cette brique-là de presque 2000 pages, Yannick Colassa, notre chroniqueuse, et ainsi qu'une autre chroniqueuse, Hélène Gauthier. Merci aussi de l'autre côté à l'ami Jean-Sébastien Laliberté qui m'accompagne chaque semaine à la technique. Encore une fois, bonne semaine, bonne lecture, c'était Clotilde Seille qui vous salue bien bas.